BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Alors c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron rappelle régulièrement, il l'a encore fait ce matin, la France est entrée en mode économie de guerre, il l'a rappelé lors d'un déplacement à Bergerac. Il a aussi remis un petit coup de pression aux industriels du secteur de la défense. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans un instant. Sinon, toujours pas de baisse de taux ce soir dans la zone euro. Sauf que Christine Lagarde nous a quand même laissé entendre que la prochaine, ça serait la bonne pour le mois de juin. On vous racontera ça aussi, bien sûr, ce soir sur BFM Business. On parlera tous avec nos experts qui arrivent à 18h30. On parlera aussi un petit peu avec eux des derniers chiffres des défaillances d'entreprises qui sont tombées ce matin, qui ne sont pas très bons. Et puis de Gabriel Attal qui est arrivé au Canada, qui est venu rassurer Justin Trudeau sur le sort du fameux CETA, bien évidemment. Voilà le programme non exhaustif, 18h15, dans un quart d'heure. C'est le patron du métier, Philippe Dornano, qui sera l'invité d'Eddie Chevrillon dans la grande interview. Et nous sommes partis jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc Emmanuel Macron à Bergerac aujourd'hui sur un thème qu'il déroule depuis 2 ans. La France, il le répète, est entrée en mode économie de guerre. Ce matin, il allait poser la première pierre d'une usine de poudre pour obus. Il en a profité pour remettre un coup de pression aux industriels de la défense. Il faut produire plus et surtout plus vite. Écoutez.
Et maintenant, c'est 500 millions d'euros qui vont être investis sur les 2 années qui viennent pour faire 2 choses qui sont au cœur de ce qui est au sein de l'économie de guerre et de ce que nous faisons ces dernières années partout sur le territoire. D'abord, continuer à investir pour accompagner cet effort de production et d'augmentation des capacités. Et puis, la relocalisation, dont vous nous avez souvent entendu parler, qu'on a commencé en période Covid, qu'on a fait sur le médicament et d'autres. Et ici, la relocalisation des poudres, qui avait été en effet abandonnée, qui montre qu'il n'y a pas de fatalité industrielle.
Voilà Emmanuel Macron ce matin du côté de Bergerac. Bonsoir Thomas Asportas. Il le dit, c'est important pour nous, c'est aussi important pour l'Ukraine qui a besoin d'être vraiment approvisionnée en obus, Thomas.
Oui, c'est avant tout pour l'Ukraine puisque le pays tire en moyenne 2 fois moins d'obus par jour que la Russie. Et d'après l'OTAN, la Russie produit presque 3 fois plus d'obus que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc il y a un déséquilibre majeur. Et c'est pour commencer à y remédier que la France veut relancer sa production de poudre à Bergerac, chez Eurenco. C'est le fabricant historique depuis 1917, ça avait été complètement abandonné en 2007 parce qu'il n'y avait plus de commandes. C'était même devenu une friche. Et évidemment, tout a changé en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine. Et Eurenco doit maintenant complètement relancer la machine pour, vous l'avez dit, passer en économie de guerre, produire le plus possible, le plus vite possible. Ça se traduit très concrètement aujourd'hui par un investissement sur place de 60 millions d'euros. La nouvelle usine va ouvrir très vite, dès le début de l'année prochaine. 150 personnes vont être embauchées dans les 12 prochains mois et la capacité de fabrication sur place de poudre va être multipliée par 10. C'est l'illustration de ce que veut Emmanuel Macron, à la fois en termes d'économie de guerre, mais aussi de souveraineté avec la relocalisation d'activités militaires, d'activités de défense et enfin de réindustrialisation avec la création d'une nouvelle usine et de nouveaux emplois.
Voilà pour le déplacement d'Emmanuel Macron à Bergerac ce matin. Merci Thomas. Puis il se trouve qu'Emmanuel Macron était accompagné entre autres de Bruno Le Maire aujourd'hui. À un moment, vous savez, où on lit, on entend que les relations se sont clairement rafraîchies entre les deux hommes. Emmanuel Macron, en tout cas, a repris un message distillé, en particulier depuis quelques semaines par son ministre. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, hein. Il le dit clairement, pour régler le choc conjoncturel actuel. On ferme tout de suite cette hypothèse. Je cite le président de la République. Dans l'actualité ce soir, je vous le disais, toujours pas de baisse de taux d'intérêt dans la zone euro. La Banque centrale les a laissés à 4%, mais Christine Lagarde a quand même laissé entendre lors de sa conférence de presse que la prochaine fois pourra être la bonne, c'est-à-dire au mois de juin. Conférence de presse que vous avez peut-être pu suivre cet après-midi en direct sur BFM Business, 18h03. Je vous le disais, pendant ce temps, Gabriel Attal est au Canada. Il vient de donner une conférence de presse avec Justin Trudeau. Évidemment, on a parlé du CETA. Vous savez que le Sénat français a rejeté le texte il y a 3 semaines, mais Gabriel Attal a tenu à rassurer tout le monde. C'est un accord gagnant-gagnant. Autrement dit, on y arrivera. Écoutez.
C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, les échanges entre nos 2 pays ont progressé de plus d'un tiers. Et ils ont progressé de façon équilibrée. Il y aurait beaucoup à perdre pour l'économie française, globalement pour nos économies, à ce que le CETA ne s'applique pas.
Voilà, Gabriel Attal tout à l'heure du côté d'Ottawa. On parlera bien sûr de ce débat tout à l'heure avec nos experts sur BFM Business. Et puis en France, ça a donc été une des annonces choc de la journée. ExxonMobil qui réduit la voilure. Il va fermer plusieurs unités de pétrochimie en Normandie. Et surtout, il va vendre la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui est l'une des 7 raffineries présentes en métropole. Exxon explique très calmement que ses activités ne sont plus compétitives aujourd'hui. Léo Dumas.
Les unités de pétrochimie normande ne sont pas économiquement viables, assure ExxonMobil, qui dit accumuler des centaines de millions d'euros de pertes depuis des années. Le groupe américain les fermera avant fin 2024 et supprimera ainsi 677 emplois. Jean-Philippe Petit est le porte-parole d'ExxonMobil en France.
Nous avons des unités qui ne sont pas compétitives en termes de taille et en termes de consommation énergétique par rapport à ce que fait aujourd'hui la concurrence mondiale. La Chine, aujourd'hui, approvisionne le marché européen à des coûts nettement moindres que ce que nous pouvons produire sur notre site ici en local.
Pour la raffinerie de Fos-sur-Mer qui va être cédée au consortium suisse Rhône Énergie, Esso évoque aussi le maintien de sa compétitivité en France, car dans les raffineries, les coûts de l'énergie sont un vrai enjeu. L'UFIP, qui représente le secteur, déplore la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité depuis le Covid. Et dans le même temps, la demande de produits pétroliers baisse. L'une des solutions est donc la conversion des sites en bioraffinerie pour produire des carburants à base de biomasse. Et ce sera bientôt la norme, estime l'UFIP, qui ne croit plus à des raffineries 100% pétrole en 2050.
Voilà, Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Et puis on voulait dire un mot de cette nomination phare chez Gucci, navire amiral de Kering aujourd'hui. On vient de nommer un directeur général adjoint, il s'appelle Stefano Cantino. C'est lui qui va devoir essayer de relancer les ventes de Gucci qui sont attendues en baisse sur le premier trimestre. Hélène Cornet.
Reprise en main chez Gucci, un nouveau président, un nouveau directeur artistique et aujourd'hui un nouveau DG, Stefano Cantino, un vétéran du luxe qui a passé 20 ans chez Prada, 5 chez Louis Vuitton. Un remaniement en profondeur pour relancer la marque, le chantier est prioritaire et même impératif. Gucci, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de Kering, les deux tiers de son résultat opérationnel. Sauf qu'au premier trimestre, la marque ne fait plus office de locomotive, le groupe a prévenu, les ventes sont attendues en baisse de 20% en raison de la faiblesse du marché asiatique. Contrairement à d'autres maisons qui misent sur l'intemporel, Gucci a une clientèle plus jeune et un modèle économique qui s'apparente plus à celui de la mode, avec des collections qui se renouvellent plus rapidement selon les spécialistes du secteur. Tout l'enjeu est donc de la faire monter en gamme avec des produits iconiques qui plairont à une clientèle à fort pouvoir d'achat. Le souci, c'est que cette stratégie est surtout payante sur le long terme.
Hélène Cornet avec nous sur BFM Business, 18h07, on va sur les marchés. Étienne Braque, bonsoir. Euronext à la Défense pour BFM Business.
Bonsoir
Étienne. Petite baisse ce soir à la Bourse de Paris. Hein.
Une nouvelle fois, la troisième, trois baisses d'affilée. Ce n'est pas arrivé depuis le mois de janvier à la Bourse de Paris. Un CAC 40 qui a à nouveau mis en danger les 8000 points, qui les a même perdus en séance avant de clôturer juste au-dessus. 8023 points, c'est une baisse de 0,3%. Alors la séance devait être marquée par la BCE, mais faute de grandes surprises, eh bien, c'est les membres de la Fed qui ont piqué la vedette à Christine Lagarde, puisque vous avez notamment le président de la Fed de New York et son homologue de la Banque de Richmond, bah, qui ont enfoncé le clou par rapport au nœud d'inflation d'hier en disant il est beaucoup trop tôt pour baisser les taux et surtout, on n'est pas très à l'aise pour baisser les taux à court terme. Donc autant dire qu'il n'y aura plus de baisse de taux au mois de juin. Donc forcément, le marché n'apprécie guère. Vous avez un Dow Jones qui recule, des indices en Europe qui sont dans le rouge également, avec l'obligataire qui continue de grimper aujourd'hui. À noter le pétrole qui redescend légèrement sous les 90 dollars. Alors la valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est Publicis qui est sur des records historiques. C'est de loin la plus forte hausse du marché parisien. 103,65 €, un titre qui gagne plus de 40%. C'est surtout la première société à dévoiler son chiffre d'affaires du premier trimestre. Et il est largement au-dessus des attentes grâce notamment aux dernières acquisitions du groupe. Et puis hors CAC 40, a souligné Esso qui est également sur des plus hauts historiques avec notamment sa maison mère ExxonMobil qui se désengage en partie de la France. Ça propulse ce titre ce soir de quasiment 8%, plus 170% depuis le début de l'année pour ce titre Esso qui, comme beaucoup de pétrolières comme Total, sont sur des niveaux inédits. Le CAC 40 donc qui recule très légèrement ce soir, moins 0,27% à 8023 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Effectivement, on a un petit peu de mal. Moins 0,28% pour le Dow Jones, 38 352 points. Et puis l'indice Nasdaq qui grappille, lui, 0,5%, 16 252. Tout ça à la mi-séance, 18h09. Le PDG de Sisley, co-président du métier, Philippe Dornano, invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de cosmétiques de luxe, de CETA, puisque vous le savez, le Premier ministre Gabriel Attal est en ce moment même, du reste, avec Justine Trudeau, puisque mon invité ce soir, c'est Philippe Dornano. Il est président de Sisley et coprésident du métier. Bonsoir Philippe Dornano.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets. On va parler donc de commerce extérieur, on va parler, tiens, de seniors. Vous n'êtes pas dans les négos, vous, le métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, mais enfin, maintenant, intéressant de savoir. Et puis, on va parler de Sisley, j'ai envie de dire un peu pour une fois, parce que vous avez, vous lancez en ce moment même une nouvelle marque, donc c'est toujours un événement pour un groupe comme Sisley, et puis une nouvelle marque notamment aux États-Unis. Et alors certains parlent d'intelligence artificielle, vous vous, vous lancez dans l'intelligence émotionnelle, on verra ça tout à l'heure. D'abord, pour la première fois, le commerce extérieur, la cosmétique est le deuxième poste et vous avez franchi la barre des 20 milliards, 23 milliards. Le CETA, ça vous concerne, là, alors que Gabriel Attal est en train d'en parler ?
Oui, ça nous concerne. On est,
vous êtes pour ou vous êtes contre ?
La cosmétique vend dans le monde entier et nous, on est plutôt pour, dans la mesure où le CETA, ça a été mis en place il y a 7 ans. C'est opérationnel,
oui, c'est ça qui est paradoxal.
Ça n'a pas été voté. Et ce qu'on constate, c'est que ça, les échanges de la cosmétique française au bénéfice de la France ont augmenté de 60%. Donc on voit que c'est un secteur qui bénéficie du CETA. Par ailleurs, on voit que même des secteurs comme l'agriculture bénéficient globalement du CETA, hein, puisque les échanges agricoles ont augmenté de 30%. Il y a par contre effectivement des écarts à l'intérieur de l'agriculture entre certains secteurs et d'autres, ce qui peut être éventuellement organisé et prévu pour que ces secteurs-là soient compensés. Mais globalement, le CETA bénéficie à notre pays.
Et donc notamment au luxe, pour vous avez dit, pardon, c'est plus combien
Plus 60% en 7 ans, l'augmentation des échanges...
C'est sur la cosmétique ou sur le luxe,
Non, sur la cosmétique. Ouais. Non, uniquement sur la cosmétique.
Oui, d'accord. C'est important. Vous êtes pour les accords internationaux. Est-ce que ça vous favorise ou de toute manière...
On est pour les accords internationaux, comme d'ailleurs l'ensemble, comme, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les entreprises, qu'à partir du moment où ils sont équilibrés.
Oui.
Il faut par contre, bien sûr, négocier, être défendu et avoir des situations de réciprocité.
Non, mais ça, évidemment.
Prends un exemple, oui. Par exemple. Lorsqu'on exporte au Brésil, on paye 200% de droits de douane.
Ah oui, donc là, effectivement, il y a un petit souci, oui.
Ou l'Inde, plus de 100% de droits de douane. Donc il y a des pays qui sont effectivement ouverts, et certes, ils importent chez vous, mais vous pouvez exporter chez eux. D'autres pays qui, effectivement, ont fait d'autres choix, et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est qu'en tout cas, il y ait une réciprocité.
C'est pour ça qu'à la limite, le Mercosur, vous y seriez, vous, à titre personnel, et puis pour la profession de la cosmétique, plutôt favorable.
Parce que favorable si les négociations prévoient qu'un échange équitable ait lieu,
oui,
en tout cas pour notre secteur.
De droits de douane.
Après, bien sûr, la cosmétique n'est pas le seul secteur, mais il faut que ce soit un ensemble.
Est-ce qu'on peut dire quand même que lorsqu'on voit les chiffres incroyables, hein, de la cosmétique et du luxe français, est-ce qu'on peut dire que pour vous, vous ne connaissez pas la crise ? Vous, là, un peu, on voit bien que c'est difficile, notamment en France, on en dira un mot. Vous, c'est incroyable.
Je crois qu'on a construit en France collectivement, grâce au succès d'un certain nombre d'entre nous et un travail dans le temps, à la fois des marques fortes et une filière.
Ouais.
Et ça se protège, mais je ne dirais pas qu'on ne connaît pas la crise. On est très très concurrencé. Il y a énormément d'enjeux dans la cosmétique. Il y a énormément d'autres pays qui produisent de plus en plus de la cosmétique et qui est concurrente de la cosmétique française. La France reste leader, mais dans le monde, dans l'entreprise, rien n'est jamais acquis.
Ouais. Tiens, puisqu'on est dans les sujets d'actualité, on en a beaucoup parlé là ces derniers jours, sur la négociation sur les seniors. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'accord, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord, le patronat n'a pas resté campé sur ses positions, les syndicats aussi, mais d'une autre manière, mais en réalité, il n'y a plus d'accord sur l'assurance chômage, et puis c'est peut-être le gouvernement qui va rafler la mise. Bon, vous n'êtes pas partenaire social dans le sens légal du terme, mais en même temps, vous représentez toutes les entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous avez jugé cette séquence ?
Bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que les ETI, qui sont à 70% des entreprises familiales, sont des entreprises
qui jouent le jeu sur les seniors.
Voilà, enfin, qui jouent le jeu, ou en tout cas, qui sont... Je dirais, c'est même pas une question de jouer le jeu, c'est nous considérons les seniors comme un atout pour nous. Et nous sommes heureux de les avoir dans nos entreprises. Ils ont une expérience, ils ont une connaissance, parfois même une connaissance précieuse. Et donc, on a, nous, besoin, on a d'ailleurs dans certains domaines des difficultés de recrutement, on a, nous, besoin de toutes nos équipes et on valorise le travail de long terme dans nos entreprises. C'est un peu le propre de nos entreprises de long terme d'avoir ce raisonnement-là. La deuxième réflexion que je me fais, c'est qu'on est en train de parler aussi de 5,2% de déficit d'une dette qui est de plus en plus importante. On sait d'autre part que le Conseil d'orientation des retraites est en train de complètement réévaluer ses estimations pour des estimations beaucoup plus réalistes et pense que malgré la réforme des retraites, on sera de nouveau en déficit en 2030. Et la question collectivement, simplement, c'est si on vide les économies qui semblent déjà pas suffisantes.
Ah oui, c'est d'accord. Là, vous êtes sur les cagnottes. Enfin, voilà. Cagnottes. Maintiens les guillemets à chaque fois.
Non, c'est pas une question de cagnottes, c'est une question d'avoir des régimes équilibrés. Mmh. Si le régime n'est pas durablement équilibré, on aura donc collectivement une difficulté, on aura donc un déficit, on aura donc. Donc, il est important d'y faire face. Et donc, si on n'arrive pas à trouver un accord, on n'arrive pas à trouver un accord, le gouvernement reprendra la main. Je comprends un peu le fait qu'on ne puisse pas. On a déjà augmenté les retraites de 5,2% au 1er janvier, c'est-à-dire très nettement supérieur à l'inflation. Oui. Donc il y a quand même collectivement une prise de conscience qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on produit.
Mais le fait que le gouvernement, c'est celui qui reprend complètement la main, c'est les conséquences de cet échec. Enfin, a priori, sauf si évidemment les partenaires sociaux se remettent à travailler autour d'un accord. Mais est-ce que pour vous, c'est la fin du paritarisme? Ça veut dire quelque chose? Ou alors, voilà, c'est une séquence?
Non,
c'est une mauvaise séquence.
Pour moi, c'est une séquence, mais pour moi surtout, il faut savoir qu'on ne peut pas collectivement avoir 30 ou 40 ou 50 milliards ou 100 milliards de déficit chaque année. C'est juste impossible.
Okay, ça, c'est plus général.
Mais c'est plus général, mais c'est en réalité le fin mot de l'histoire. Et qu'il faut donc avoir des régimes qui soient raisonnablement équilibrés. Et si ça n'est pas le cas, effectivement, il faut qu'on l'adresse. Ça ne sera pas possible d'avoir 5,2% de PIB de déficit chaque année.
Philippe Dornano, on va parler de Sisley, parce que c'est là vous avez lancé une nouvelle marque. Donc Sisley, grosso modo, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est 4080 personnes. Vous êtes présent dans 112 pays, enfin de mémoire, vous me dites si je me trompe. Vous gagnez combien? Le bénéfice, c'est quoi?
On ne communique pas sur nos bénéfices parce qu'on est une entreprise familiale.
Mais
c'est une entreprise qui est rentable, c'est une entreprise qui a beaucoup investi.
Qui est rentable ou très rentable?
C'est une entreprise qui est rentable selon les critères de la cosmétique, qui s'est beaucoup développée, qui a beaucoup investi. C'est une entreprise qui va investir là dans les deux prochaines années 110 millions, pardon. Oui. Là, je suis passé sur les milliards.
Ouais.
110 millions d'euros sur ses sites industriels en France. C'est une entreprise qui produit en France et qui, à partir de la France, exporte vers l'international. Effectivement, on construit une deuxième usine de production à Vendôme. On double aussi notre centre de recherche à Saint-Ouen-l'Aumône et notre centre administratif. C'est quasiment 110 millions d'investissements. C'est près de 5000 salariés, dont 1300 salariés en France. Donc, c'est une entreprise qui a doublé son chiffre d'affaires dans les 7-8 dernières années.
Ouais. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut créer des usines, on peut développer des ETI en France.
Alors, on peut les développer, mais on ne peut pas faire l'économie du sujet de la compétitivité. Parce que si on fait l'économie
de ce
sujet...
Ça, c'est votre grand cheval de bataille, mais
oui, parce que si on fait l'économie de ce sujet, ça va commencer par notre filière qui va se paupériser, qui va disparaître. Ça va ensuite être des pans d'entreprises qui vont commencer à produire à l'étranger. Et un jour, on se fasse réveiller et cette industrie cosmétique dont on est fier en France et qui est notre deuxième poste, notre deuxième excellent d'exportation, elle ne sera plus là. Les marques produiront ailleurs. Il ne faut pas oublier que la cosmétique, c'est très, très concurrentiel.
Et juste un petit point sur la zéro artificialisation nette des sols. On a vu que les projets industriels, a priori, les grands projets industriels ne seraient pas touchés, impactés par ça. Vous, ça peut vous impacter?
Alors, le problème, c'est le mot les grands. C'est-à-dire qu'en réalité, pour les ETI, ça va impacter les projets industriels. L'industrie, c'est moins de 3% de l'artificialisation. Et donc, il y a une question de bon sens qui se pose. Est-ce que cette radicalité, ce zéro artificialisation des sols, est-ce que c'est pas de nature, à partir du moment moment où ça va empêcher les développements économiques, de créer une réaction de rejet vis-à-vis du sujet de l'artificialisation. Ouais. Cette radicalité dans le domaine écologique, il porte presque c'est presque l'ennemi de l'écologie. Il faut que des projets d'activité puissent se développer. D'ailleurs, les collectivités locales sont les premières à le dire. Ouais. Et il faut avoir raisonnablement la possibilité de créer des emplois, de créer de l'activité dans notre pays, qui, je le rappelle, est un des pays les moins artificialisés en Europe.
Oui, c'est toujours ce côté excessif. Alors, lancement d'une nouvelle marque, pourquoi c'est un moment important pour vous? Alors, je disais en introduction, en faisant un petit clin d'œil, certains font de l'intelligence artificielle, vous faites de l'intelligence émotionnelle, puisque votre nouvelle marque, elle s'appelle Neurae. C'est un lancement qui représente combien pour Sisley?
Alors, qui représente 11 ans d'innovation, de travail sur cette marque, parce que au début il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous lancez une nouvelle marque.
Non, mais d'investissement, j'entendais, parce que 11 ans.
Et en investissement, je peux pas vous donner un chiffre précis, mais c'est 11 ans de travail.
Ouais.
C'est une injection. Et nous sommes une marque qui est familiale, personnelle. Ma famille travaille dans les cosmétiques depuis à peu près 90 ans maintenant. On a créé plusieurs marques en France.
Si c'est comme vous l'avez dit.
Orlan et ensuite Sisley. On a créé aussi une marque dans le groupe Sisley qui est Rituel, qui est une marque capillaire qui a maintenant 5 ans et qui s'est vraiment formidablement développée, parce que on est dans les 112 pays avec beaucoup de succès. On a reçu plus de 300 prix dans la presse internationale et la marque est en très forte croissance. On vit de l'innovation, on vit de la création. On a une liberté de créer dans cette catégorie qu'est la cosmétique et le capillaire. Et on cherche aussi, quand on crée une nouvelle marque, des champs de recherche qui sont des champs puissants. Et c'est le cas des neurosciences.
Alors là, c'est quelque chose... Oui, on peut se demander qu'est-ce que viennent faire les neurosciences, ou alors c'est que du marketing par rapport à cette nouvelle marque que vous lancez. C'est l'idée, en fait, que nos émotions impacte notre visage et notamment la manière dont est reçue une crème.
C'est d'abord l'étude sur le lien entre le cerveau, le système nerveux et l'ensemble des organes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième point de progrès, c'est des outils de mesure. En fait, pour optimiser, il faut mesurer.
Et en fait, on parle d'une crème, c'est ça qui est étonnant.
Et depuis 20 ans, l'IRM, les différents outils de mesure qui vous permettent de mapper dans votre cerveau l'activité dans votre cerveau de vos émotions, mais aussi la compréhension du lien peau-cerveau qui se fait en partie par une connexion électrique, mais en partie par une connexion chimique, c'est-à-dire des neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs qui sont produits à la fois dans le cerveau et dans la peau vous permettent de mieux comprendre comment la peau fonctionne et de regarder si ces neuromédiateurs ont un impact sur votre peau. Ça, c'est très intéressant, et on voit qu'un certain nombre de neuromédiateurs, non seulement ils agissent sur vos émotions, mais ils ont un impact sur l'état de santé de votre peau.
Donc ça veut dire que là, par exemple, si je vais chez vous, vous allez mettre des sortes d'électrodes sur la tête, et puis vous allez pouvoir voir comment ma peau réagit.
Ça veut dire surtout que on le sait tous, si je suis effrayé, je vais avoir de la chair de poule. Si je suis stressé, je vais peut-être avoir une irritation, ou je vais peut-être être... Ça, on l'a tous vécu, mais on ne pouvait pas l'expliquer. On le savait de manière empirique, mais on n'avait pas d'outils qui permettaient de l'expliquer, de le mesurer. Et ces outils qui permettent d'adresser des produits qui sont des produits efficaces pour la peau et qui luttent contre les irritations de la peau, contre les rides, qui permettent une meilleure fermeté de la peau, en agissant sur ces neuromédiateurs qui sont produits par la peau comme par le cerveau et qui ont une action sur votre peau.
C'est étonnant, vous avez fait appel à des médecins, à des quoi ?
On a fait appel à des médecins, on suit beaucoup les recherches médicales sur la manière dont la peau fonctionne, on a travaillé aussi sur des nouveaux types de tests qui permettent de mesurer les actifs qui vont agir sur un neuromédiateur au niveau cutané. C'est un travail qui est vraiment important. Et d'autre part, pour les parfums, on peut aussi maintenant, grâce à l'IRM, mesurer les actions que les parfums ont sur votre cerveau, et c'est absolument passionnant.
Ah oui, ça doit être... Et là, vous lancez ça en ligne, évidemment, aux États-Unis, en France ?
On lance ça dans 5 pays, dans un certain nombre de points de vente sélectionnés. On va être au Sephora Champs-Élysées très, très prochainement. On le vend également en ligne. On va ouvrir une centaine de points de vente en France en septembre. On le lance aux États-Unis dans des grandes chaînes américaines. On le lance dans des parfumeries plus traditionnelles en Italie. On le lance plutôt en digital en Angleterre. Donc, des choix différents de distribution et quelques pays sélectionnés, mais On est assez confiant sur le succès de ce produit. Et comme vous l'avez dit, on est présent avec le groupe Cissé dans plus de 112 pays. Donc, au fur et à mesure, on développera la marque dans tous ces pays.
Est-ce que vous êtes conscient quand même, vous le savez, j'imagine, c'est qu'en fait, quand on interroge notamment les banquiers d'affaires, il y en a plein qui vous disent, toutes les grandes marques, elles sont à l'affût, elles regardent Cissé en se disant, quand est-ce qu'on peut les racheter? Vous avez beaucoup de propositions?
On est une marque, et je pense que c'est de plus en plus compris, on est une marque de créateurs et d'innovateurs. On est une marque familiale, passionnée par les produits. On a été à de nombreuses reprises l'une des marques qui a modifié l'ensemble du paysage cosmétique grâce à des innovations. On a été la première marque à se spécialiser dans les actifs naturels, c'est-à-dire l'utilisation scientifique des extraits des plantes. Et vous savez, vous pouvez extraire des centaines de milliers d'actifs d'une seule plante. Donc il y a un travail scientifique très important. On a été la première marque à créer un soin solaire. Quand vous allez au soleil, votre peau est beaucoup plus exposée. La première marque a créé un soin global anti-âge en 1999 avec Sisleya. On a à chaque fois été très, très innovateur, et c'est ça notre passion.
Votre patte.
Je pense que vous sentez qu'on vit notre entreprise d'une manière forte.
Donc c'est pas pour tout de suite. Les banquiers d'affaires, faudra attendre en tous les cas. On peut dire un mot de étincelle avec mauvais jeu de mots, si j'ose dire ETI majuscule étincelle, parce que c'est un programme qu'a voulu le président de la République pour promouvoir les ETI. Et là, vous avez annoncé et présenté lundi dernier, donc il y a juste quelques jours, 1128. Entreprises que vous avez repérées qui pourraient devenir des ETI, comment est-ce que vous avez fait ?
Vous me disiez à juste raison qu'on se bat sur la compétitivité du site France, mais aussi, on peut aussi prendre le problème sous un autre angle. Nous, notre but, c'est de recréer un tissu d'entreprises moyennes grandes en France. Un Mittelstand, j'osais pas le dire, à l'égal de l'Allemagne ou d'autres pays, d'ailleurs, de l'Europe, l'Italie du Nord. Et on peut prendre le sujet de la compétitivité, mais on peut aussi avoir un autre angle d'attaque pour arriver à ce résultat. Et c'était l'idée d'Olivia Grégoire c'était d'identifier des PME de croissance qui peuvent arriver à la taille de ETI et essayer de les aider, de voir ce qu'on peut faire pour les aider à se développer. Ce qu'on a fait, nous, pour le gouvernement, c'est une recherche, et on a donc identifié plus de 1100 PME de croissance qui pourraient arriver à la taille ETI et qui permettraient à la France, petit à petit, de rattraper l'Allemagne quant au nombre d'ETI. Je vous rappelle les chiffres, 6300 ETI en France, ouais. 17000 en Allemagne.
Ouais. Et en Italie, c'est 13000 ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on est très, très, très en retard. Quel secteur, en fait ? Parce que là aussi, ça rejoint un problème. C'est que lorsque vous regardez les chiffres du commerce extérieur, c'est que vous avez plus de 96% qui exportent, des entreprises, des PME, mais qui représentent même pas 2% ou 3% du commerce extérieur français.
Donc, il faut connaître l'exportation. Le problème de l'exportation, c'est qu'il faut quand même des moyens pour exporter. Ouais. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour la compétitivité. Et il faut aussi une certaine taille. Il faut avoir à la fois de l'argent et puis il faut avoir des équipes. Il faut avoir le temps pour aller à l'exportation, pour pouvoir construire les projets. Et donc, il faut identifier des entreprises d'abord qui ont des produits porteurs et ensuite essayer de faire en sorte qu'elles puissent progressivement et de manière intelligente aller à l'exportation. Pousser des petites PME à trop vite à l'exportation, c'est même dangereux pour elles. C'est donc plutôt à la taille ETI qu'on arrive à vraiment pleinement exprimer la force de l'exportation. Ouais. Et je vous rappelle que les ETI, c'est 35% du chiffre de l'exportation française. Donc, notre sujet d'exportation, c'est d'avoir en France le même nombre d'ETI qu'en Allemagne. C'est ça ce qui va permettre à l'exportation de se développer.
Oui, il y a du boulot lorsqu'on voit les chiffres. Hein, c'est à peu près moins de 100 milliards. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je parlais du déficit du commerce extérieur, bien sûr. Merci Philippe Dornano, le patron de Sisley et co-président du Métis.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, on est de retour, 18h35. Nos experts sont là. Première partie jusqu'à 19h. Emmanuel Lechypre est arrivé. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon qui reste avec nous. Rebonsoir Edwige.
Bonsoir.
On va dire un mot quand même de ce que disait Philippe Dornano, le patron de Sisley, co-président du Métis. Alors, on racontait tout à l'heure, Gabriel Attal est à Ottawa. Là, il a tenu une conférence de presse avec Justin Trudeau pour dire rassurez-vous, le CETA est un bon accord, ça va se faire. Là, il a trouvé un ambassadeur de première classe. Là, pour
absolument, ouais, c'est donc. Il faut dire que la cosmétique, ça cartonne de par le monde. À la limite, ça n'a pas besoin tellement d'accord. Mais si, disait justement Philippe Dornano, d'abord, le CETA, il fonctionne depuis 7 ans. Donc, c'est ça, c'est un peu le truc un peu ubuesque de la situation. Il dit, mais pour nous, c'est très, très important parce que ça nous rapporte. Mais comme c'est plus 30%.
Il faut bien qu'il les gagne quand même.
Comme plus l'agriculture. Et il disait, par exemple, regardez, pourquoi c'est important ? C'est parce que, par exemple, les droits de douane sont contrôlés. Il disait, vous voyez, au Brésil, les droits de douane, c'est plus 200%. En Inde, c'est plus 100%. Donc, c'est sûr que si vous avez un accord où vous avez pu négocier les droits de douane, comme c'est le cas pour le CETA, à ce moment-là, c'est du gagnant-gagnant. Donc, lui, bel avocat ou bon avocat en tous les cas pour ces accords internationaux.
Ou bien qu'il y ait des gagnants quand même dans ces accords de libre-échange. Emmanuel, on est d'accord, bah, ça l'est
pas. Non, et en plus, avec le CETA, il y a plus de gagnants que de perdants.
Y compris dans l'agriculture.
Y compris dans l'agriculture, puisqu'effectivement, si vous regardez nos viticulteurs, si vous regardez nos fabricants de fromage, donc on a vraiment changé de philosophie. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde acceptait ces accords. C'était un peu des boîtes noires dans lequel on nous disait...
On savait pas très bien ce qu'il y avait dedans.
Oui, on savait pas très bien ce qu'il y avait dedans. On savait que globalement, on était gagnant. Et puis les filières perdantes, finalement, ne disaient trop rien. Il y avait beaucoup de filières gagnantes aussi. Là, ce qui est fou, c'est que maintenant, on n'accepte plus cette philosophie qu'il y ait le moindre perdant. Et ça, effectivement, on le voit bien. Alors après, est-ce qu'il faut trouver les moyens, surtout là pour le coup, sur le CETA, on voit bien que le nombre de perdants est quand même extrêmement concentré. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, effectivement, peut-être après
de... C'est les vins et spiritueux qui en bénéficient beaucoup plus.
Oui, absolument.
C'est, mais par c'est exemple, les cosmétiques.
On voit bien que le seul sujet, en fait, c'est l'élevage.
C'est les conditions d'élevage.
C'est la viande. Et que donc, voilà, après, il y a peut-être quelque chose politiquement à faire pour limiter la casse. Mais c'est vrai que...
Et puis pour nous, trouver une alternative à la Chine sur certaines matières premières essentielles dans le
cadre
de la
transition. Oui, parce que c'est un des autres sujets aussi, effectivement, l'approvisionnement en matières premières stratégiques.
Bien, je voulais qu'on dise un mot aussi de ce qu'il nous a raconté sur la fin de l'interview, c'est les neurosciences au service des cosmétiques. C'est génial.
Il faut dire que c'est une histoire, les Dornano, c'est une histoire assez étonnante. Donc ils ont son père avec son frère, Michel Dornano, on connaît, ancien homme politique, et Hubert Dornano, son père, ils avaient créé Lancôme, Orlan, et puis donc Sisley, c'était un tout petit laboratoire de crème à partir de plantes. Et puis à partir de ça, ils ont complètement développé, se sont appuyés sur les technologies pour savoir comment les plantes pouvaient impacter sur notre peau et tout. Et là, ils lancent une nouvelle marque où en fait on aura, je disais un peu en rigolant, certains développent l'intelligence artificielle, eux c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire en fonction de la réactivité en fait de votre peau.
Écoutez ça,
aux émotions, à différentes choses, et bien votre peau, elle fait des irritations, elle fait ceci, elle fait cela. Donc ça leur permet, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à la neuroscience, de savoir comment votre propre peau va réagir, y compris les parfums.
Et les parfums aussi.
Les parfums aussi. Il y a un parfum qui s'appelle émotion, l'autre qui s'appelle joie, l'autre qui s'appelle énergie. Et on se met ça, par exemple, tous se mettent ça avant de venir en studio, Emmanuel.
Ça vous embouche un coin, ça, Emmanuel. Neuroscience au service des cosmétiques. Ça, c'est vraiment...
Non, mais c'est vrai qu'on sait, on sait qu'il y a des tas de...
La technologie,
Non, mais il y a des tas de processus physiques qui se déclenchent quand vous ressentez des émotions, etc.
Bien sûr.
Et donc, certainement, si on arrive à inventer des produits qui s'adaptent finalement aux différents types d'émotions, c'est ça le progrès.
Voilà, les neurosciences donc au service des cosmétiques, c'est l'avenir. Bien, au milieu de tout ça, la Banque Centrale Européenne, de revenir à nos fondamentaux.
Demandons si Christine Lagarde utilise les neurosciences, pour savoir s'il faut baisser ou pas les taux d'intérêt.
Évidemment, ça, on le saura demain. Donc la Banque Centrale Européenne qui n'a pas baissé ses taux d'intérêt, mais enfin on a quand même senti dans les propos de Christine Lagarde que peut-être le mois de juin, ça serait la bonne. Bonsoir Thibault Prébet, vous êtes avec nous en visio, merci d'être avec nous quelques instants. Directeur général adjoint de la financière Arbe Vel. Est-ce que vous sentez vous aussi... que le mois de juin, ça sera la bonne pour une première baisse de taux, Thibault?
Oui, pas de doute. Les statistiques inflationnistes se réduisent comme peau de chagrin en Europe. Le discours était très clair. On a plus l'impression de ne pas être passé très loin de la baisse de taux en avril que d'un risque que celle de juin s'évapore.
Pourquoi? Parce que la prochaine est en juin, que c'est dans deux mois?
Oui, absolument.
Et vous pensez que certains auraient voulu une baisse de taux dès le mois d'avril, finalement, c'est ça?
Christine Lagarde a évoqué le fait que certains des membres de la Banque Centrale auraient voulu quelque chose d'ici avril, mais se sont rangés à la majorité. Les trucs pas consensuels comme ça, c'est des choses qui durent pas très longtemps. La Banque Centrale attend le prochain rapport sur l'emploi qui sera entre cette réunion et la prochaine pour voir la décrue de l'inflation salariale qu'on connaît tous et qui est déjà documentée par ailleurs. Ouais. On a maintenant une inflation dans les grands pays de la zone à 2, 3, 2, 4. Faut quand même bien comprendre que mettre des taux à 4 quand l'inflation est quasiment à 10, ça pose aucun problème, c'est compréhensible quand on est aussi proche de l'objectif de 2%, dont je vous rappelle qu'il est théoriquement désormais symétrique, donc on y est quasiment. Il est clair maintenant qu'il n'y a plus tellement de raison de laisser les taux à ces niveaux-là. Se déjuger par rapport au scénario juin qu'elle avait donné depuis longtemps aurait peut-être été un pas assez fort. Simple fait que ça a été envisagé, évoqué, montre quand même que le consensus sur juin ou avant, par rapport à un consensus juin ou après qu'on avait précédemment, est assez clair. Donc on y va tout droit. La question sera, une fois que ça a démarré, l'ampleur, la vitesse, et c'est là que il faudra bien écouter ce qui nous est dit par la Banque Centrale, puisqu'en réalité, le point de départ est très excitant pour les marchés. C'est un peu ce qui se passe après. Je vous rappelle, quand on a commencé les hausses de taux aux États-Unis, on parlait de 3 ou 4 hausses de taux. Vous voyez où on a fini.
Oui, oui, oui.
Donc,
le
point de départ, c'est sympa, mais le vrai truc qui compte, c'est le cheminement.
Emmanuel Le Chip a une question pour vous, Thibault.
Ben, oui, parce que Thibault, dans les anticipations de mouvement de taux, on a quand même une extrême volatilité qui tourne à la fébrilité. C'est-à-dire que maintenant, les baisses de taux aux États-Unis, on nous disait il y en aura au moins 3. Tout le monde considérait ça comme acquis. C'est de moins en moins sûr. Et puis moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même un trouble fait dans tout ça qui s'invite depuis le début de l'année. C'est qu'on a beaucoup de matières premières qui sont reparties à la hausse. Et on sait que la BCE, même si c'est de l'inflation importée, etc., elle risque d'être sensible à ça. Donc, est-ce que cette hausse, et encore une fois, de beaucoup de matières premières, ne risque pas de contrarier le mouvement de baisse?
Thibault.
Non, sincèrement, je crois pas du tout, parce que il faut regarder en fait de manière plus à mon avis apaiser ce sujet. Les matières premières, déjà on est une économie qui varie vers les services en sortant de l'industriel, donc le poids des matières premières n'arrête pas de baisser. Je rappelle aussi qu'on a eu des hausses que j'appellerais rétroviseurs des prix de l'énergie. Enfin, le coût de l'électricité en France spot, il est quand même à 0 euro le mégawattheure, pendant que le prix du gaz est revenu au niveau de avant crise, voire d'il y a 5 à 10 ans. Et c'est pour le coup une matière première qui est peut-être moins fun à commenter que le prix du cacao, mais qui est beaucoup plus impactante pour les ménages. Donc je crois que l'image globale quand même, c'est qu'il n'y a pas de pression inflationniste. La difficulté, elle est simple. On a des sociétés dans le domaine du service qui ont, si on prend l'exemple de Netflix, une capacité à monter les prix pour des raisons quasi monopolistiques, comme les Microsoft 365, etc. Et donc ces boîtes-là ont une inflation qui est stagnante et qui ne baisse pas. Il y a une grosse partie du pool aux États-Unis, c'est moins important en Europe. Ça ne justifie pas aujourd'hui de risquer de tuer des entreprises industrielles pour garder les taux à un niveau où ils sont même pas particulièrement efficaces contre les services. Donc je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu en Europe. Aux États-Unis, ça se débat plus.
Aux États-Unis, c'est autre chose. Edwige, est-ce qu'il est temps, au moins en Europe, effectivement, de baisser les taux?
Oui, c'est clair. J'allais faire la même réflexion que vient de faire Thibault à l'instant. C'est qu'aux États-Unis, on a vu les chiffres de l'inflation, c'est pas terrible. En revanche, en Europe, il est temps. J'ai envie de dire, il est grand temps. Mais quel niveau de baisse des taux? Qu'est-ce que vous pariez sur quoi? Parce qu'on voit que la situation économique, elle est en train de se dégrader, et que surtout, cette guerre qui n'en finit pas en Ukraine pèse énormément sur le moral des agences économiques. Et on voit que les chiffres ne sont pas bons. Donc, je ne sais pas, si vous aviez un pari, ça serait quoi?
Alors, Thibault, vous avez un scénario ou pas?
Ouais. Allez. Non, mais le problème, c'est que déjà, il faut se rappeler un truc, c'est qu'on a tous oublié que le potentiel économique de croissance de la zone euro, il est quand même pas très loin de zéro. C'est ce qu'on avait avant cette crise de Covid. Et on revient plus ou moins au potentiel, comme les États-Unis qui reviennent à leur potentiel qui est un peu plus haut. Et donc, malheureusement, je crois qu'il faut s'habituer à des économies assez ternes, qui sont notre norme. En revanche, je pense que les baisses de taux mettant du temps à se faire, elles vont être au fur et à mesure, et que garder un rythme de taux, on va dire, d'observation dans un premier temps, sauf dérapage inflationniste à la baisse, reste un peu dans les cartes. Donc je pense que la baisse va se faire, elle va se faire lentement. Si ça se fait trop vite, que les marchés montent trop, ça recrée des dépenses, de la consommation. Donc je pense qu'on va rester dans quelque chose, malgré tout, de relativement sage dans un premier temps. Mais encore une fois, les cycles de hausse et de baisse des taux, c'est sur plusieurs semestres, donc c'est pas très grave que ça démarre pas très vite. Il faut voir où ça nous emmène. Mais attention, il y a un risque sur l'industriel si on rentre dans des phases déflationnistes. Il y a des risques sur la construction de logements neufs, qui sont très sensibles au niveau des taux, sur les niveaux globaux de l'économie. Espérer qu'on revienne à 2% en Allemagne ou en France, je pense que c'est malheureusement, par rapport à la grande tendance de l'histoire, optimiste.
C'est une époque un peu révolue. Bon, rendez-vous en tout cas pour le déblocage, peut-être au mois de juin. Merci Thibault, merci d'avoir été avec nous quelques instants.
Merci
Thibault Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. On attendra Christine Lagarde au tournant, évidemment, en juin prochain. Et puis alors, on voulait dire un mot de ces chiffres qui sont tombés ce matin. Alors ça, c'est en France, premier trimestre 2024, vous avez vu ça. Un peu plus de 17 000 défaillances d'entreprises enregistrées d'après le cabinet Altares. Sur un premier trimestre, vous n'avez pas vu un chiffre aussi élevé depuis 2015.
Il faut voir la taille des entreprises, parce qu'on sait que c'est les TPE, très souvent, qui sont les plus impactés. On aura du reste, le président du tribunal de commerce de Paris sera mon invité dans la grande interview lundi, parce que lui, il a ses chiffres sur le premier trimestre. Je pense qu'évidemment, ils ne seront pas très très bons. Mais c'est les TPE qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert.
Il y a plus de PME maintenant qui commencent à aller au tapis, malheureusement, c'est ça le sujet. Thierry Millon, justement, directeur des études d'Altares, est avec nous en visio. Bonsoir, monsieur Millon, merci d'être avec nous. Alors, vous nous dites, sur un an, au premier trimestre, c'est plus 19%, mais vous nous dites, si on regarde dans le rétroviseur, les années précédentes, c'était des hausses de 30 à 40%. Donc, ça augmente toujours, mais la hausse ralentit d'une certaine façon, Thierry Millon.
Oui, bonsoir à tous. C'est naturellement le message. Nous sommes, après la Covid, à attendre que les niveaux de défaut soient très élevés, et ils le sont. Et nous avons un premier trimestre qui continue, comme le quatrième de 2023, à être élevé. En revanche, plus 20%, même si ça reste beaucoup, c'est deux fois moins que ceux que nous avions au cours des deux années précédentes. Oui. Donc, apprécions l'effort.
Emmanuel Le Chypre, comment est-ce que vous regardez ces chiffres, vous, Emmanuel?
Oui, moi j'avais une question quand même autour du rythme, enfin du nombre, parce que là, bon, on regarde, c'est vrai que les pourcentages de variation sont intéressants. En nombre, on a quand même l'impression qu'on n'est pas très au-delà de ce qui est le rythme. J'allais dire de croisière.
Bah, on est à 60 000 sur un 12 mois.
Oui,
c'est
là, un peu le rythme de croisière de la respiration de l'économie française chaque année. Est-ce qu'il faut vraiment s'alarmer ou pas? Ou est-ce que c'est la nature des entreprises qui font défaut qui est plutôt inquiétante?
Il ne faut pas s'alarmer. 60 000, c'est un volant de défaut que nous avons rencontré avec la crise financière en 2008 et que nous avons conservé jusqu'à ce poste la crise des dettes souveraines. Donc en 2016, préalablement, nous étions très en dessous, et depuis, nous étions plutôt stabilisés autour de 53 000. Donc le référentiel est plutôt 53-55 que 60, très clairement. Derrière ces 60 000 défauts sur un an, pour le coup, nous avons bien évidemment beaucoup de TPE, c'est l'essentiel, c'est 92%, hein, comme notre économie d'ailleurs. Pour autant, en termes de tendance, parce que c'est là où les données sont les plus sévères, c'est sur les PME de 50-200. Donc, nous sommes sur des employeurs de territoire, dans toutes les régions. Et nous avons là, évidemment, une économie qui est fragilisée parce qu'il s'agit de sous-traitants, d'équipementiers, qui, s'ils sont en défaut, évidemment, ne pourront pas servir la filière, même si cette filière devait être une filière en forte activité.
Oui. Élie Chevrillon.
Oui, non, juste une question. Bonjour, monsieur. Les secteurs, c'est quoi? C'est le BTP? Oui. Qu'est-ce qui est plus impacté dans les chiffres que vous publiez?
Alors, d'une façon tout à fait attendue, les secteurs qui avaient le plus souffert sont ceux sur lesquels les tendances sont les plus favorables. Apprécions aussi le fait que pour la première fois depuis bien longtemps, nous avons et des territoires et des activités qui sont repassées dans le vert, c'est-à-dire dont le nombre de défauts diminue, donc c'est quand même pas rien. Et donc là-dessus, nous avons pour l'essentiel les métiers de quotidienneté, les métiers de bouche, les commerçants évidemment. Ça reste encore un peu tendu. À l'opposé de cela, nous avons des métiers sur lesquels les tensions sont très fortes. Donc l'immobilier reste en tête avec des niveaux qui sont très élevés, et pas très loin des niveaux de l'immobilier, nous avons par exemple le commerce de meubles.
Oui.
Si vous ne déménagez pas, si vous n'achetez pas, si vous ne transformez pas, vous pénalisez cette activité-là. Nous avons bien évidemment la construction, mais de façon générale, j'ai plutôt tendance à trouver que la construction, finalement, offre une bonne résistance. Il faut séparer le commerce de gros, c'est-à-dire les maçons et la construction de maisons individuelles, du second œuvre, qui donne quand même des signaux de résistance tout à fait intéressants et encourageants.
Bon, vous nous dites donc, pour résumer, pour conclure, Thierry Millon, on sera à 64 000 grosso modo défaillances sur l'ensemble de l'année 2024. C'est ça le chiffre, qui n'est pas alarmant pour vous, a priori?
Non, 64 000, c'est plus 10%. Oui. C'est toujours trop, mais ça n'est que plus 10%.
Merci beaucoup Thierry Millon, merci d'avoir été avec nous ce soir quelques instants. Directeur des études du cabinet Altares, qui a donc publié ses chiffres ce matin. Je vous fais écouter un petit bout d'Emmanuel Macron qui était à Bergerac.
Ouais.
Sur un sujet qui lui est cher depuis deux ans, vous savez, c'est l'économie de guerre, parce qu'il a posé la première pierre d'une usine qui va fabriquer de la poudre pour obus. Et il en a profité pour remettre un petit coup de pression sur les industriels pour produire plus et plus vite. Écoutez le président de la République ce matin à Bergerac.
Et maintenant, c'est 500 millions d'euros qui vont être investis sur les deux années qui viennent pour faire deux choses qui sont au cœur de ce qui est au sein de l'économie de guerre et de ce que nous faisons ces dernières années partout sur le territoire. D'abord, continuer à investir pour accompagner cet effort de production et d'augmentation des capacités. Et puis, la relocalisation, dont vous nous avez souvent entendu parler, qu'on a commencé en période Covid, qu'on a fait sur le médicament et d'autres. Et ici, la relocalisation des poudres, qui avait été en effet abandonnée, qui montre qu'il n'y a pas de fatalité industrielle.
Voilà, c'était une friche il y a encore quelques années, ce site. Et ce qui se passe là, ce qui était là où est allé Emmanuel Macron ce matin, c'est assez révélateur de ce qui se passe, parce qu'on racontait ça ce matin sur BFM Business, la poudre dont on a besoin pour construire des obus, il faut ce qu'on appelle de la nitrocellulose. C'est une matière première qu'on ne trouve pas en Europe. Les réserves sont en Chine. Or, la Chine en vend beaucoup plus à la Russie qu'à l'Europe depuis 2 ans. Voilà. C'est l'illustration parfaite de ce à quoi on veut s'attaquer en termes de difficultés aujourd'hui. Relocaliser, Emmanuel, sur le sol français. Enfin, c'est...
Ouais, il y a 2 enjeux dans cette relance. Alors, plutôt que d'économie de guerre, on peut parler d'effort de guerre, parce que l'économie de guerre, c'est beaucoup plus puissant. Mais c'est vrai qu'il y a 2 enjeux. Il y a quand même cet enjeu de souveraineté, qui est un enjeu majeur sur les produits de défense, et c'est les mêmes débats que ceux qu'on a sur finalement les technologies d'intelligence artificielle, etc., qui viendraient d'ailleurs. Et puis c'est vrai que ce sont des secteurs qui ont un effet d'entraînement plus important sur l'économie que d'autres secteurs. Donc oui, effectivement, c'est intéressant de voir que on va sans doute avoir plus d'activité. Il y a de la commande publique qui a beaucoup augmenté, et ça a un vrai effet d'entraînement.
Il y a de la commande publique, mais les industriels expliquent qu'ils ont du mal à fournir, à tenir le rythme, augmenter la cadence, produire plus et plus vite, justement. Oui, d'où les messages de Le Cornu depuis 15 jours, 3 semaines, qui tirent un peu les oreilles aux industriels.
Le message du ministre des Armées, Sébastien Le Cornu, c'était la menace des réquisitions. Oui. Effectivement, et là, les réquisitions, c'est quand même l'outil le plus dur de notre arsenal juridique, qui peut conduire à obliger des entreprises à donner la priorité à certaines productions.
Edwige.
Oui, mais moi, je posais la question à Patrice Cahen, donc le patron de Thales, donc dans la défense jusque-là. Et il disait, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'économie de guerre, parce que de toute façon, par exemple, on parlait du Grand Masters 200, vous savez, c'est le radar qui peut protéger notamment Kiev des attaques à 200 km à la ronde. Et il disait, on en produit, mais il y a un moment, on ne peut pas produire plus. Donc, déjà, on a l'impression...
Avec des stocks sur les bras qui vont être dont on ne sait pas...
Oui, mais c'est qu'à la limite, tout le monde en veut. Il faut bien aussi que ça soit l'Ukraine, la France, la question de souveraineté. Je suis d'accord, évidemment, avec Emmanuel, et qu'il y a une demande très, très forte, parce que la France est devenue le deuxième producteur d'armes dans le monde. Et qu'il y a des demandes et des besoins partout.
Sauf que l'enjeu, si on veut vraiment enclencher une reprise de la production d'armement, c'est de garantir à ces entreprises qui vont se lancer dans l'armement, de leur garantir des commandes pour des années et des années. Il ne s'agit pas de reproduire ce qui s'est passé pour les masques au moment du Covid, où ça a duré 1 an, et puis après...
Oui, sauf que tout le monde est en train de se réarmer, y compris la France. Oui, donc c'est là où il y a un sujet.
Je pense que le sujet, il est là. Et qu'on a quand même, pour le coup, une industrie de pointe. La France, c'est un des plus gros vendeurs d'armes.
2000 entreprises, deuxième exportateur d'armes
aujourd'hui. Donc c'est quand même un secteur sur lequel on a intérêt à capitaliser.
Mais il va falloir effectivement honorer les commandes, et c'est un petit peu le...
Non, mais il y a un enjeu pour la France elle-même, pour la souveraineté de la France. Je pense que c'est ça le gros sujet qui peut inquiéter, parce que la demande, elle est là, de par le monde. Partout, tout le monde veut acheter des armes, et notamment des armes françaises, parce qu'on est très bon. Mais puis il y a l'Ukraine qui a une demande gigantesque, mais il y a aussi la France qui a besoin de se protéger au cas où.
C'est muscler notre industrie de défense, c'est pas une économie de guerre.
Non,
c'est l'économie de guerre. Les États-Unis, pour vous donner l'ordre d'idée, c'était un tiers du PIB au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Voilà. Donc on en est très très loin.
Et aujourd'hui, c'est 3,5% de leur PIB, alors que la France est à 1,9%. Ouais, la question, c'est est-ce que demain, l'économie de guerre, en cas de menace immédiate, ça doit être 2, 3, 4, 5% du PIB? Évidemment, ça serait un autre sujet. Là, ça dépasserait le cadre des industriels. Il nous reste 2 minutes, nous accueillons avec l'honneur dû à son rang François Sorel. Bonsoir François.
Ça fait plaisir. Bonsoir à tous les trois.
Parce qu'il est avec nous, parce qu'invité exceptionnel tout à l'heure dans Tekkenco, qui s'appelle Jonathan Ross, c'est le patron de Grok. C'est la start-up américaine qui veut défier Nvidia sur son terrain de jeu. Rien de ça, c'est vendeur, franchement.
Ouais.
Franchement,
quoi. Start-up très intéressante. Grok avec donc son fondateur qui sera en interview exclusive pendant plus de 40 minutes dans Tech & Co. Une interview qu'on a enregistrée hier et qui s'annonce passionnante parce que ce gars-là, c'est un peu Sam Altman avant qu'il soit connu. Je suis persuadé que dans un an, ce type sera une star de l'intelligence artificielle. Il a un parcours brillant. Il a eu comme prof un certain Yann Lequin. Ouais. Qui est un peu notre star française de l'intelligence artificielle. C'est Yann Lequin qui l'a formé, en quelque sorte. Il a travaillé chez Google. Il a travaillé dans les puces des smartphones Google, les Pixel, il y a quelques années. Et puis, au bout d'un moment, il a décidé de monter sa boîte. Et il se concentre sur un truc très simple. c'est à la fois très simple et très compliqué. Comme toujours avec l'IA, ils fabriquent des puces qui permettent d'avoir une rapidité d'exécution des réponses que tu reçois quand tu écris sur ChatGPT, des réponses jamais vues. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ChatGPT, mais quand vous écrivez une requête, vous appuyez, vous attendez 2-3 secondes avant que le texte sorte.
Et comme nous n'avons plus aucune patience avec quoi que ce soit...
Lui a mis au point un truc, c'est que c'est instantané. C'est-à-dire que tu appuies sur Enter pour après ta réponse, instantanément tu as la réponse. Pour l'écrit, c'est impressionnant, mais c'est bluffant pour le futur de l'IA. Le futur de l'IA, ça sera la voix. Ça sera la voix, ça sera la robotique. Et demain, on aura des interactions qui seront tellement spontanées et tellement rapides qu'on pourra encore se rapprocher de cette intelligence artificielle générale qu'on évoque de plus en plus souvent et qui serait au niveau d'une intelligence humaine. Ce gars-là est passionnant, on évoque plein de choses avec lui. Il a même des velléités à créer en fait un centre de données, de data center en France, parce qu'il estime que la France est le carrefour de l'Europe en termes de technologie. On a une électricité de bonne qualité, on a du très haut débit, on a d'excellents ingénieurs, et donc il aimerait bien s'installer en France.
Il faut le dire aux agences de notation, hein,
c'est pas ça. Pourquoi il veut supplanter Nvidia?
Parce que...
Donc la vitesse de ses puces,
En fait, Nvidia fait des puces qui sont très générales, qui sont très puissantes, mais qui ne sont pas optimisées pour justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les réponses, en fait, lorsqu'on écrit une requête
sur ChatGPT. Oui, mais j'ai bien compris, mais j'imagine que Nvidia, du coup, il veut aussi accélérer la vitesse de ses puces.
Oui, mais ils n'ont pas encore cette... comment dirais-je, le savoir-faire que lui a avec ses puces.
D'accord, il a ça.
Et en plus, elles consomment beaucoup moins que les puces traditionnelles d'intelligence artificielle. Donc c'est très intéressant.
Mais le chiffre est bouche bée.
Combien de puces il produit
Alors là, j'en ai aucune idée.
Mais ce qui est surtout extrêmement bluffant et nouveau, c'est que c'est chaque semaine qu'on fait des progrès.
Chaque jour, que
cette technologie arrive. Finalement, c'était un peu le sens de l'histoire. On voit bien qu'on va aller de plus en plus vite avec des processeurs de plus en plus puissants, etc. Ce qui est fou, c'est que le monde de dans 15 jours n'est plus le monde d'aujourd'hui et que d'ici cet été, il se passera des tas de choses extraordinaires. Et moi, c'est ça qui me sidère.
Bon, enfin,
au-delà de la puissance de l'outil.
En attendant 15 jours, il sera là tout à l'heure. Interview à 20h, hein, John Boros, donc le patron de Grok.
Bravo. Ça sera 20h45 exactement. 20h45. On va débriefer un petit peu l'actu avant. Frédéric Simotel et Marjorie Paillon, et puis 20h45, cette interview donc.
Jonathan Ross, l'homme que le monde va apprendre à découvrir petit à petit, qui sera une star dans un an, nous dit François.
Allez, on lance les paris.
Merci beaucoup François, 18h58, c'est fini. Merci Manuel, Edwige, merci à lundi.
Merci. Le président du tribunal de commerce de Paris, il aura des chiffres tout frais sur les défaillances d'entreprises.
À lundi, avec plaisir, bien sûr. 18h58, nous on revient dans un instant. Le journal, on va revenir un peu sur le déplacement d'Emmanuel Macron du côté de Bergerac. Sur Christine Lagarde, qui nous dit beaucoup de choses sans vraiment en dire. C'est tout un art. Et puis on déroule l'actualité économique, bien sûr, avec nos experts de 19h15 à 20h. À tout de suite.